Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 19 novembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, 24 soldats tués dans une nouvelle attaque de djihadistes dans l'est du pays.
Mise en garde du Burkina Faso contre le survol de son territoire par des avions militaires étrangers.
Au Tchad, 5 villageois tués par Boko Haram dans l'ouest du pays, où le groupe djihadiste nigérian multiplie les attaques.
Ici à Washington, reprise des audiences publiques à la Chambre des représentants dans le cadre de l'enquête des démocrates sur une éventuelle procédure de destitution contre le président Donald Trump.
L'administration Trump a annoncé hier ne plus considérer que les colonies israéliennes en Cisjordanie sont contraires au droit international.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, 24 soldats tués, 29 autres blessés et des dégâts matériels importants. C'est le bilan d'une opération bilatérale menée hier par les forces armées maliennes pour traquer des djihadistes à la frontière Mali-Niger. Une de leurs patrouilles a été accrochée à Tabankor, dans la région de Gao. Précision de Kassim Traoré.
Zone de trafic par excellence, Tabankor est située dans la région de Gao. Elle est limitée au sud-est par le Niger, au nord par la région de Kidal et à l'ouest par Tombouctou. C'est dans cette zone désertique et plus précisément à Ifoukaretan que les combats se sont déroulés entre les forces armées maliennes FAMA et des groupes terroristes. Au cours des combats, les FAMA déplorent 24 morts, 29 blessés et des dégâts matériels importants. On dénombre 17 terroristes tués, une cinquantaine de suspects appréhendés entre les mains des forces nigériennes à Tiola et 70 motos détruites. Les blessés ont été évacués à Tiola au Niger. C'est avec le soutien de la force Barkhane que les FAMA et les Nigériens ont repris l'initiative sur le terrain à Tabankor. La force nigérienne a mené une fouille. Avant cette fouille, 3 véhicules des FAMA avec des occupants ont rejoint le camp de Tiola au Niger. Ces 3 véhicules ont été rejoints par d'autres dans la soirée. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'état-major burkinabé a adressé le 15 novembre une correspondance à l'attaché de défense français, lui demandant d'avertir de tout déplacement d'avion 48 heures à l'avance, sinon ils seront considérés comme ennemis. Davantage de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le document est signé du chef d'état-major, le général Moïse Minindou. Des aéronefs non identifiés survolent nos bases et zones d'opération. Des instructions ont été données pour que ces aéronefs soient considérés comme ennemis, indique le document, spécifiant que tout déplacement aérien devra être annoncé 48 heures à l'avance. Selon le lieutenant-colonel burkinabé Ismaël Diouari, la lettre a été adressée à tous les attachés de défense étrangers et pas seulement à la France. Outre la France, qui a des drones et des mirages dans la région, les Américains ont également des drones au Niger. Selon une source militaire française, la lettre montre qu'il y a une certaine tension entre le Burkina et la France et des discussions sont en cours. L'armée française est présente au Burkina avec une base de 200 hommes des forces spéciales à Cambouinzin, en banlieue de Ouagadougou.
Au Tchad, 5 villageois ont été tués par Boko Haram dans l'ouest du pays, où le groupe djihadiste multiplie les attaques meurtrières. 2 ont été égorgés et 3 abattus par balles, a précisé Sadiq Khatir, secrétaire général du département du Lac. Leurs corps ont été retrouvés samedi, mais l'attaque aurait eu lieu plus tôt dans la semaine, selon une source à la préfecture locale, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Les villageois sont sortis des zones protégées par l'armée, a ajouté cette source.
En Guinée-Bissau, un proche du président de l'Assemblée nationale du Niger a été condamné hier à 15 ans de prison pour trafic de drogue. C'est suite à une grosse saisie de cocaïne en mars dernier. Le point avec Idriss Fall.
D'après le ministère bissau-guinéen de la justice, Mohamed Sidi Ahmed, détenteur d'un passeport diplomatique nigérien, est présenté comme un conseiller en communication du président de l'Assemblée nationale du Niger, Oseini Tini. Un Nigérien, Ibrahim Ilyasu Salouhu, et un Sénégalais, El Hadji Mar Gueye, écopent chacun de 14 ans de prison ferme. Leur procès avait commencé vendredi. Tous les trois ont été arrêtés en mars à Bissau en possession de près de 800 kilos de cocaïne dissimulés dans un camion frigorifique de poissons immatriculé au Sénégal. Selon la police judiciaire de Bissau, le véhicule était conduit par le Sénégalais et les stupéfiants avaient pour destination le nord du Mali. Un Bissau-Guinéen arrêté a été libéré et deux suspects de nationalité malienne sont toujours recherchés. Une autre saisie record d'environ 2 tonnes de cocaïne a eu lieu début septembre dans le nord de la Guinée-Bissau. 12 suspects ont été arrêtés, dont 3 Colombiens, un Mexicain, un Malien et 7 Bissau-Guinéens.
En Algérie, des manifestants ont à nouveau perturbé hier le deuxième jour d'une campagne qui s'annonce agitée pour tous les candidats à la présidentielle du 12 décembre. Campagne massivement rejetée par le Hirak, le mouvement de contestation inédit qui agite l'Algérie depuis 9 mois. Le Hirak réclame le démantèlement du système au pouvoir depuis 1962 et rejette une élection qu'il estime destinée à permettre à ce système de se régénérer. Les 5 candidats sont tous dans anciens partisans ou proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission par la rue en avril.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président Donald Trump a annoncé hier qu'il envisageait sérieusement de témoigner dans l'enquête parlementaire sur une éventuelle procédure de destitution contre lui. Les audiences publiques se poursuivent au Congrès et plusieurs témoignages sont attendus cette semaine. Le point avec Eric Manirakidza.
La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a suggéré que je témoigne dans l'enquête bidon, a écrit M. Trump sur Twitter. Même si je n'ai rien fait de mal et n'aime pas porter de crédit à cette parodie de justice, a-t-il ajouté, je vais l'envisager sérieusement. Madame Pelosi lui avait reproché la veille de critiquer l'enquête sur les réseaux sociaux. Elle avait lancé sur une chaîne de télévision, s'il n'est pas d'accord avec ce qu'il entend, il ne devrait pas tweeter. Il devrait venir devant la commission et témoigner sous serment. Il peut aussi le faire par écrit, avait ajouté Madame Pelosi. Après 6 semaines d'audition à huis clos, les audiences sont maintenant publiques au Congrès. Le témoignage demain de Gordon Sondland, proche du président et ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, est très attendu. 7 autres témoins sont convoqués de mardi à jeudi, dont Kurt Volker, émissaire américain en Ukraine, ou Fiona Hill, ex-collaboratrice du conseiller à la sécurité nationale John Bolton, limogé début septembre.
L'administration Trump a annoncé hier que les États-Unis ne considéraient plus comme contraire au droit international les colonies de l'État hébreu en Cisjordanie occupée. Après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et celle de la souveraineté de l'État hébreu sur le Golan syrien, il s'agit d'une nouvelle décision en rupture avec la tradition diplomatique américaine, aussitôt saluée par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et dénoncée par l'autorité palestinienne.
Israël a par ailleurs annoncé ce matin avoir intercepté 4 roquettes tirées depuis la Syrie voisine, alors que les médias d'État syrien évoquent des explosions entendues près de l'aéroport de Damas. Environ 450 roquettes, selon l'armée israélienne, avaient été tirées la semaine dernière depuis la bande de Gaza vers Israël, dans la foulée d'une opération militaire contre Baha Abu al-Atta, un commandant local du djihad islamique. À noter que lors de cette opération, des frappes avaient visé la résidence à Damas d'un haut responsable politique du djihad islamique, Akram al-Ajouri, tuant 2 personnes, dont son fils.
À Hong Kong, des dizaines de manifestants pro-démocratie ont entamé mardi matin leur 3e journée retranchée dans un campus après une spectaculaire évasion nocturne de leurs camarades. Pendant ce temps, Pékin répète que la Chine ne laissera pas sans réagir la mégalopole basculer dans l'anarchie. Le siège de l'Université polytechnique de Hong Kong constitue la confrontation la plus longue et la plus violente avec les forces de l'ordre depuis le début de la contestation en juin dans l'ex-colonie britannique. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Tanzanie ambitionne de produire d'ici 5 ans 1 million de tonnes de noix de cajou, soit plus que le triple de la récolte anticipée cette année et qui est évaluée à 300 000 tonnes d'après l'agence Bloomberg. Grâce à ce volume, le pays devrait devenir le premier producteur et exportateur de cette matière première. Afin d'atteindre cet objectif, les autorités tanzaniennes veulent augmenter à 17 le nombre de régions engagées dans la culture contre 5 actuellement. Au Ghana, la société locale Springfield E&P a découvert un gisement d'or noir de 1,2 milliard de barils de pétrole avec des quantités de gaz naturel commercialement viables, révèle Financial Times. Le forage du puits concerné a démarré il y a 40 jours. Le gisement a été foré à une profondeur de 3323 mètres. C'est la première fois qu'une société pétrolière africaine engage des travaux de forage en eau profonde et fore un puits de pétrole. Le Zimbabwe décide d'appliquer avec vigueur une politique visant à contraindre les entreprises à développer leurs actifs miniers et à ne pas conserver leurs terres à des fins spéculatives. Le ministère des Mines accuse certains investisseurs de n'avoir pas développé des actifs en or et en platine qu'ils détiennent depuis les années 1960. La production de platine devrait atteindre 1 023 000 onces d'ici 2023 contre 917 000 l'an dernier si Anglo Platinum, Impala Platinum et Sibanye Stillwater augmentaient leur production.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite et fin de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021 ce soir.
Oui, le Burundi reçoit le Maroc. Ce sera la première fois que Burundais et Marocains s'affrontent, mais pas un match historique de l'avis du sélectionneur des Hirondelles burundaises, Alain-Olivier Niyungeko.
Oui, c'est vrai que c'est la première fois contre l'équipe marocaine, mais je dirais que c'est pas un miracle parce qu'on a joué contre la Tunisie, on a joué contre l'Algérie. Et le football maghrébin, ça a une ressemblance, comme tu peux dire, au football burundais-rwandais. C'est pas historique parce que tu sais, comme vous êtes dans le football, on joue, il y a quelqu'un qui gagne ou bien qui perd. C'est-à-dire demain, il y aura une bonne rencontre et un bon niveau de football.
Alain-Olivier Niyungeko, sélectionneur du Burundi. Gagner, c'est aussi le maître mot côté Lion de l'Atlas.
Je pense qu'on a une obligation de gagner mardi et on doit bien ça aussi à nos supporters qui attendent une victoire depuis un moment. Il y avait de la chaleur ce matin, mais là, ça s'est calmé, il fait frais. Donc non, alhamdoulilah, ça va. C'est sûr que mardi, ça sera la même température et voilà, on essaiera de tout donner quand même.
Salim Amala, joueur marocain, des propos recueillis par notre correspondant Amine Birouk. Toujours ce soir, la Centrafrique se déplace en Mauritanie. La Côte d'Ivoire en Éthiopie, la Zambie reçoit le Zimbabwe, Madagascar le Niger, la Libye joue la Tanzanie, à suivre aussi Guinée équatoriale, Tunisie.
Hier, l'Égypte a encore été tenue en échec.
Décidément, l'Égypte ne s'est pas encore remise de sa CAN ratée à domicile. Après avoir été tenue en échec 1-1 face au Kenya lors de la première journée des éliminatoires de cette CAN 2021, les Pharaons ont encore été accrochés par les Comores 0-0 à Moroni. La RDC a été contrainte au match nul face à la Gambie, 2-2, 2-2 également entre le Cap-Vert et le Mozambique, 1-1 entre le Kenya et le Togo, 1-0 pour l'Algérie face au Botswana.
Accord trouvé pour stopper la grève des footballeurs en Espagne.
Les syndicats et les clubs de la Ligue féminine sont parvenus à un accord pour mettre fin à la grève des joueuses. Les footballeuses espagnoles ont entamé un mouvement de grève le week-end dernier pour demander des conditions de travail dignes et aucune des 8 rencontres de la 9e journée de la Ligue féminine n'a été disputée. Elles demandent entre autres un salaire minimum de 16 000 euros par an. Les clubs, pour leur part, proposaient des salaires minimum de 8 000 euros annuels.
En MLS, Thierry Henry plaide la patience à Montréal.
L'ancien attaquant international français, nommé la semaine dernière entraîneur de l'Impact Montréal, estime que le club est à reconstruire après avoir raté les playoffs lors des 3 dernières saisons. Thierry Henry a indiqué que c'est lui qui a contacté l'Impact après sa première expérience cauchemardesque comme entraîneur à Monaco. Il a été évincé après seulement 100 jours sur le rocher et 5 victoires en 20 matchs. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
New York et Cleveland 123 à 105, Brooklyn et Indiana 115-86, Toronto et Charlotte 132-96, Milwaukee et Chicago 115-101, Houston et Portland 132-108, Dallas et San Antonio 117-110, Phoenix, Boston Celtic et Phoenix 99-85, Utah Jazz et Minnesota, 112-102. Et pour le résultat du match Oklahoma City et les Clippers, rendez-vous à 7h temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, tenu à Dakar, du 18 au 19 novembre, d'un forum international sur la paix et la sécurité, cette sixième édition traite du thème des défis actuels du multilatéralisme dans une région en proie au terrorisme et à l'extrémisme violent. Et pour les observateurs, l'enjeu majeur est de trouver une gestion inclusive de la crise sécuritaire qui touche l'Afrique. Reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
L'objectif des participants du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est de trouver des solutions contre le terrorisme qui affecte la région. C'est l'avis du diplomate Seydou Nourouba.
C'est une réunion informelle entre des scientifiques, des serviteurs de l'État, le secteur privé, les organisations internationales, les think tanks, des chefs religieux, des diplomates, des officiers généraux, des chercheurs, des sociologues pour analyser tout ce qui peut amener la paix et la sécurité. En toute liberté. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Les réflexions, les analyses stratégiques, sociopolitiques sont versées dans cette corbeille. Maintenant, libre à tout un chacun, un État ou une organisation, de venir trouver dans cette corbeille ce qui lui convient.
À travers ce forum sur la paix et la sécurité, les gouvernants africains pourront trouver des solutions pour faire face aux défis sécuritaires. Le colonel Bachir Ndao, membre du comité scientifique et membre du Centre des hautes études en sécurité du Sénégal, estime que leur démarche est dictée par les nouvelles menaces qui pèse sur la sous-région.
Et aujourd'hui, les défis sécuritaires, les formes de menaces sont d'une autre nature. En plus de la menace djihadiste, il y a le trafic de drogue, il y a aussi le trafic d'êtres humains et aussi il y a en fait les défis écologiques. C'est toute une série auxquelles aujourd'hui l'Afrique est confrontée et des solutions vont être discutées pendant le forum. Et je pense que nous aurons des réponses et en tout cas des propositions pertinentes qui seront mises à la disposition des décideurs. Il faudrait que ces efforts soient mieux coordonnés pour avoir plus d'efficacité sur le terrain. Et ça, c'est important.
La mutualisation des forces, c'est le principal enjeu de ce forum, car comme l'indique l'ambassadeur Seydou Nourouba, le manque de culture religieuse et la pauvreté ne sont pas les seules causes majeures du terrorisme et de l'extrémisme violent sous nos tropiques.
Le fait que ceux qui sont tout ou partie de la solution, chacun pense que de son côté, il peut régler le problème. Alors qu'il faut mutualiser, il faut faire des stratégies communes, créer des synergies pour enfin, vraiment, l'enjeu vital, c'est l'enjeu justement du développement pour les pays africains. Surtout quand il y a la gestion des ressources naturelles.
Pour résoudre définitivement la crise dans le Sahel, il faut avant tout une force militaire supérieure à celle des djihadistes. C'est l'avis du président sénégalais Macky Sall. En ouverture du forum sur la paix et la sécurité en Afrique, le président Sall a affirmé qu'il faut beaucoup plus de coordination entre les différentes missions déployées sur le terrain de façon à rendre leurs actions plus cohérentes et plus efficaces. Le chef de l'État sénégalais estime par ailleurs qu'il faut opposer aux terroristes une force militaire supérieure, mieux armée et plus déterminée. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Halte Ebola veut faire la différence dans la lutte contre Ebola. Cette organisation, créée ici aux États-Unis, tente d'aider à mettre fin à l'épidémie qui a déjà tué plus de 2000 personnes en plus d'une année dans l'est de la République démocratique du Congo. Eddie Isango a rencontré ses animateurs ici à Washington.
Pourquoi les États-Unis, suivant la réponse du vice-président des Halt Ebola, chargé des relations avec les gouvernements, le professeur en informatique, l'ingénieur Poli Mutombo.
Halt Ebola a été créé ici aux États-Unis pour pouvoir aider la population locale au Congo. Et ce que nous attendons des États-Unis, c'est la mobilisation du matériel et puis la mobilisation des fonds pour pouvoir non seulement acheter les équipements médicaux, mais aussi être capable de soutenir notre équipe qui est sur place au Congo.
Halt Ebola vient donc rallonger la liste des organisations organisations qui interviennent déjà sur le terrain. Mais quelle est sa particularité? Réponse de l'épidémiologiste basé au Canada, le docteur Frank Poyo.
Alt-Ebola, c'est une vision nouvelle, c'est-à-dire c'est une vision pour la communauté et par la population locale. C'est ça qui est très différent de ce que nous avons toujours assisté dans beaucoup des épidémies qui se sont passées dans les années antérieures. Ce qui est plus particulier de Alt-Ebola, c'est une action communautaire par la population locale elle-même. C'est-à-dire, ils ont la responsabilité de faire les actions. C'est-à-dire, nous, au niveau des États-Unis, par exemple, nous n'allons pas décider de quoi on doit faire sur le plan local. C'est la population elle-même qui va voir dans quelle direction pour arrêter cette épidémie.
Pour cette organisation, la réticence des populations locales envers les opérations de lutte contre Ebola s'explique. Elle est liée au ressentiment à l'endroit des organisations internationales. Explication de Poli Mutombo.
Cette communauté a été isolée pendant très longtemps. Cette communauté a vu des gens venir tuer, violer, emporter tout ce qu'il y a comme ressources minières. Si cette communauté voit encore les mêmes individus venir avec des manteaux différents pour dire que voilà, nous sommes venus pour pouvoir vous aider, cette communauté n'a pas confiance. Ce que nous sommes en train de faire avec Alt-Ebola, c'est de pouvoir rétablir cette confiance, non seulement pour la communauté internationale, mais aussi pour la population locale.
Qui ramène Alt-Ebola en RDC? De nouveau, le docteur Mpoyo.
Nous avons un partnership avec une université à Texas. Là où il n'y a pas de centre de santé, par exemple, nous allons amener ces podcasts qui ont une technologie avancée et nous allons les implanter là où il n'y a pas de centre de santé, par exemple, où une femme et un enfant peuvent aller pour avoir des soins.
L'organisation prévoit d'aider à améliorer les systèmes sanitaires congolais en mettant en place, avec l'aide des nouvelles technologies, une banque de données en vue d'un suivi et d'un encadrement des malades et des personnes guéries.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, marche pacifique des victimes de l'ancien président Hissène Habré hier à N'Djamena. Après 8 mois environ de sit-in, ces victimes ont décidé de protester dans la rue pour l'exécution de la décision de justice en leur faveur. Mais leur marche a été dispersée par la police. Compte rendu de notre correspondant sur place, André Konmadjingar.
Prévu pour une distance de plus de 2 km sur l'avenue principale de la ville de N'Djamena, la marche des victimes de l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré pour exiger du gouvernement leur indemnisation a très vite tourné à l'émeute. Ces victimes brandissent des banderoles et pancartes où on peut lire, entre autres, « Nous, victimes du régime d'Hissène Habré, revendiquons notre indemnisation, payez impérativement notre argent, ne continuez pas à nous tuer. » À quelques mètres du point de départ, et la police surgit et tente de convaincre les manifestants à sursoir à la marche. Mais la tension est vive. Un pas, encore un deuxième pas et le renfort de la police arrive et stoppe le cortège devant deux grands lycées de la capitale. Quelques élèves de Bado entrent dans la danse et les deux voies sont bloquées. La police fait usage de gaz lacrymogène. Colère et indignation des victimes.
Voilà l'exemple qui est là devant vous.
Nous sommes pacifiques. Depuis presque 7 mois, on est sur la rue. Le gouvernement ne nous écoute même pas. Donc c'est comme ça que nous sommes découragés et on est sortis sur la rue.
Repliés dans leur quartier général, l'émotion est à son comble. Les femmes âgées qui aspirent le gaz lacrymogène respirent à peine. Le président de l'association des victimes des crimes du régime d'Hissène Habré, Clément Dokota Baifuta, qualifie d'inhumain l'acte perpétré contre ces personnes de troisième âge.
Si des gens qui manifestent pacifiquement la main sur la tête, réclamant leurs droits, on peut les violenter jusqu'à ce que nous ayons dans nos rangs 5 personnes qui sont alitées. Je crois que c'est l'horreur. Non mais, dis donc, nous sommes où là?
Au-delà de la condamnation à des travaux forcés allant de 5 à 20 ans pour les uns et la perpétuité pour d'autres, les 20 ex-agents de la DDS doivent également payer à ces victimes une somme de 75 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts. L'État tchadien est civilement responsable et doit s'exécuter à hauteur de 50%. Le ministre de la Justice, garde des sceaux chargé des droits humains, Jimmy Arabi, se veut rassurant.
Le gouvernement est vraiment conscient de la situation de ses victimes et je crois que les dispositions sont en train d'être prises pour que les victimes soient satisfaites le plus rapidement possible. Parce que la volonté politique est claire et la grande question, c'est de chercher les voies et moyens à indemniser vraiment les victimes.
Les victimes, quant à elles, trouvent que cette sortie est une victoire et n'entendent pas baisser les bras.
On a gagné! On a gagné!
André Kodumadjingar Ndjamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ici à Washington, les démocrates de la Chambre des représentants continuent leurs audiences publiques dans le cadre de l'enquête qu'ils ont ouverte sur une éventuelle procédure de destitution contre le président Donald Trump. Cette dernière tire à boulet rouge... la présidence des États-Unis tire à boulet rouge sur ses adversaires démocrates et sur les témoins qu'il convoque. Patsy Vidakusvara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, examine la stratégie de communication dans les deux camps dans ce reportage, repris ici par Lionel Gahima.
Face à la menace de sa mise en accusation, le président Donald Trump reste constant dans ses réactions.
Vous parlez de la chasse aux sorcières? Le lanceur d'alerte, je l'appelle le faux lanceur d'alerte. Il a donné un faux rapport. Et le fils de Biden, Hunter Biden. Hunter, où est Hunter? Qu'est-il arrivé à Hunter?
L'enquête parlementaire est maintenant publique et télévisée. Devin Nunes, un républicain de la commission du renseignement de la Chambre.
Le canular de l'ingérence russe s'est dissipé et maintenant vous lancez une suite ukrainienne de bas étage.
Vanessa Beasley, professeure de communication à l'Université Vanderbilt.
C'est un cadre qui dit fondamentalement au public, il n'y a rien de nouveau ici. Vous avez toujours su que les démocrates essaient de le destituer.
C'est un message que le président répète tout le temps sur Twitter, attaquant souvent le démocrate Adam Schiff, qui préside les audiences publiques au Congrès.
C'est un politicien corrompu et franchement, il devrait être poursuivi.
Cette stratégie peut être efficace, particulièrement avec la base républicaine loyale à Trump. Shannon O'Brien, de l'Université du Texas à Austin.
Je pense qu'ils ont fait un travail stratégique ces dernières années en qualifiant de fausses nouvelles, fake news, tout ce qui est critique du président ou de la Maison-Blanche. Donc ce n'est pas digne de confiance ni valide. Et je pense qu'ils essaient de pousser dans ce sens.
Les démocrates aussi ont leur propre stratégie. Vanessa Beasley de l'Université Vanderbilt.
Les démocrates jouent la carte de l'opinion publique en suivant un cadre légaliste ou procédurier et c'est leur capacité de dire « Regardez, à la fin, nous avons agi exactement comme nous devions le faire. »
Ils ont même commencé à utiliser le mot « corruption » plutôt que l'expression de marchandage. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre.
Le pot de vin consiste à accorder ou à refuser l'aide militaire en échange d'une déclaration publique sur une fausse enquête électorale. C'est de la corruption.
Qui va gagner ou perdre cette bataille? Pour le moment, personne ne sait. Ce que nous savons pour sûr, c'est que le processus va encore durer des mois.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi, à 19h05, temps universel.
Le monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le monde au féminin.
Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Le monde monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.